Je vous invite à prendre votre Bible, à l'ouvrir dans l'épître de première épître de Pierre. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'était pas revenu là. 1 Pierre, on était au chapitre 5 la dernière fois, début du chapitre 5. Et nous avions considéré, je pense, les 4 premiers versets. Nous allons considérer aujourd'hui le verset suivant. Mais je vous invite à lire pour commencer 1 Pierre chapitre 5 et nous allons lire à partir du verset 1. 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous tous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Jusqu'ici, la lecture ce matin. Je trouve que la photographie est une belle invention. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Belle invention que les appareils photo, surtout maintenant, mais je me souviens, il y a très longtemps, enfin il y a un petit bout de temps déjà, du premier appareil photo de mon père. Vous rigolez déjà, mais avec la pellicule, peut-être que les jeunes ne savent même pas ce que c'est qu'une pellicule, tout ce qu'ils connaissent comme pellicule, c'est ce qu'il y a dans les cheveux, mais il existait avant des rouleaux avec lesquels on prenait les photos. Il fallait que ça demeure dans l'ombre, dans l'obscurité. Une fois que vous aviez pris les photos, vous deviez amener ça après au laboratoire, un petit magasin qui prenait une dizaine de jours avant de les développer. Et puis, vous allez chercher vos photos, et là, surprise, il y avait des photos floues, vous avez raté les clichés, et impossible de se rattraper, n'est-ce pas? Parce que, voilà, la scène avait déjà disparu, on a déjà voyagé depuis, Et donc, on n'est plus dans cette belle nature qu'on voulait photographier et ni avec ses amis qu'on a voulu prendre en photo. Et les temps ont changé, n'est-ce pas, depuis. Les appareils photos sont devenus très modernes et maintenant, ils sont même intégrés dans nos téléphones. À tel point qu'on n'achète plus un téléphone pour ses caractéristiques téléphoniques, mais pour ses caractéristiques photographiques. Et j'ai lu que c'est en 1999 à peu près que le premier appareil photo est apparu sur un téléphone portable. Mais le clou du clou, c'est quand sur les appareils photo des téléphones portables, on a installé l'appareil frontal. Avant, vous preniez la photo et l'image était devant vous. Et maintenant, vous êtes capable de prendre la photo avec l'image derrière vous. Et vous pouvez maintenant apparaître vous-même sur la photo que vous prenez. Et c'est la naissance du selfie. C'est la naissance du selfie. Voilà ce qui flatte l'orgueil. Vous savez comment on dit orgueil en anglais? Égoïsme en anglais. Je crois que c'est selfish. On va demander ça à Chloé après. On dit selfie. Donc, c'est deux mots qui sont relativement proches. Je peux être maintenant au centre de l'image et du beau panorama que je prends. Et quand je prends une photo maintenant, je ne propose plus à mes amis d'observer le beau panorama, ces belles montagnes, mais je lui propose d'observer le caractère impressionnant de la personne la plus importante de la planète qui se trouve sur cette photo, c'est-à-dire moi. Et la création de Dieu ne sert que de toile de fond à l'exposition de ma propre personne. C'est ça le selfie. Vous allez quelque part et vous êtes devant une belle image et vous faites quoi? Vous faites ça, hein? Vous faites pas ça, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on se met d'abord et puis on s'expose dans cette image-là. Et donc, l'égoïsme et l'orgueil se trouvent, flattés par cette invention du selfie. L'orgueil et l'égoïsme sont les choses qui sont les plus ancrées en nous. Et je crois que le fait de prendre des images comme cela, ça met en évidence, je ne dis pas que le selfie est mauvais, mais ça met en évidence cette caractéristique particulière qui nous est propre, cette caractéristique d'orgueil et d'égoïsme. Quelqu'un disait que l'orgueil et l'égoïsme, c'est le premier vivant des péchés et c'est le dernier mourant. Il était là, l'orgueil était là même avant, hein, quand on lit la Bible, hein, avant qu'on voit les choses, l'orgueil était déjà dans le cœur du diable. Et puis, quelqu'un dit que c'est la dernière chose à disparaître. L'orgueil s'attache aux chrétiens tout autant qu'aux non-chrétiens. Il se fait connaître à nous, parfois, n'est-ce pas, sous des noms qui sont des noms d'emprunt, ici. La modestie, parfois on dit qu'on est... parfois c'est le perfectionnisme, parfois on appelle ça l'activisme. Mais dans toutes ces choses-là, l'orgueil et l'égoïsme sont présents. Ils se logent dans tous les sentiments, dans toutes les activités. Parfois on est blessé par quelque chose, mais à travers cette blessure même, on voit l'orgueil, hein, se manifester. Parfois on boude, et c'est l'orgueil qui est là. Parfois on n'est pas content, on claque la porte. Orgueil. On peut être au pupitre en train de prêcher avec de l'orgueil. On joue au piano ou d'un instrument de musique motivé par l'orgueil. Quelqu'un a dit la particularité de l'orgueil, c'est qu'il se nourrit même des vertus. Il se nourrit des bonnes choses. Et il s'infiltre et il s'exprime à travers même les bonnes choses. Mais l'orgueil, c'est quelque chose qui est vraiment ancré et attaché à nous. Quelqu'un a dit que c'est attaché à notre propre chair. Et il faut en être conscient, hein. Je me souviens avoir lu cette petite histoire il y a très longtemps d'un homme qui parlait de son maître. Il disait, mon maître est tellement orgueilleux que dans un baptême, il voudrait être le bébé. Dans un mariage, il voudrait être la mariée. Et même dans un enterrement, il veut être le défunt. Pour qu'il soit toujours au centre de ce qui se passe et qu'on parle de lui. Hein. Alors, on n'exprime pas les choses comme ça, mais si on analyse vraiment ce que nous faisons, nous pouvons trouver beaucoup d'endroits où nous voulons être le premier. Comme Diotrephe. Dans la Bible, 3 Jean, il est dit que Diotrephe était un homme qui aimait être le premier. Et nous pouvons être comme cela dans tout ce que nous faisons. Et ce que l'apôtre Pierre souligne ici, c'est vraiment cette attitude. Dans les versets que nous avons lus, le verset 5, il dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de quoi ? D'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Il dit « Vous, nous avons un problème avec l'orgueil, avec l'égoïsme. Et la fin qui approche doit nous pousser à vivre vraiment dans l'humilité. » Et il dit en verset 5, « De même, donc ça veut dire qu'il lit ce qu'il dit ici à ce qu'il avait déjà dit concernant les anciens. Il dit, voilà, les anciens doivent avoir une attitude envers l'Église. Ils doivent faire paître le troupeau du Seigneur. Ils doivent le faire non par contrainte, mais volontairement. Ils doivent le faire non pour gagner, mais avec dévouement. Ils doivent le faire non comme étant en train de dominer sur eux par orgueil, mais il dit qu'ils doivent le faire en étant les modèles du troupeau. Il dit, de même, vous, eh bien, vous devez aussi avoir une attitude à l'égard des anciens et une attitude d'humilité les uns envers les autres. Et donc, le titre du message ce matin, c'est « Revêtir l'humilité ». Revêtir l'humilité. La première chose que nous voulons souligner dans ces passages, c'est que l'humilité doit, d'après ce que l'apôtre dit, se manifester dans les relations interpersonnelles au sein de l'Église. L'humilité doit se manifester dans les relations interpersonnelles au sein de l'Église. De même, verset 5, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de sentiments d'humilité. » Alors, l'humilité, ce n'est pas simplement un sentiment, hein, même s'il dit « revêtez-vous d'humilité », ce n'est pas simplement un sentiment ou quelque chose que je possède dans le vide. Hein. Voilà, j'ai l'humilité, je possède l'humilité, voilà, comme ça. Non, c'est quelque chose qui se vit dans les relations, ce qu'il est en train de montrer ici. L'humilité se manifeste dans les relations que j'entretiens les uns avec les autres. Quelqu'un ne peut pas dire simplement « je suis humble ». Pour savoir s'il est humble, il faut qu'il soit en interaction avec les autres. Et sa manière de vivre, ses réactions, toutes ces choses-là montreront vraiment s'il est humble ou non. Et les relations ici doivent être ici empreintes de cette humilité. Alors, Pierre avait déjà parlé plusieurs fois de l'attitude d'humilité, de soumission, par exemple, hein, en chapitre 2, verset 13, chapitre 2, verset 18, chapitre 3, verset 1. Mais ici, dans le texte qui nous intéresse, il montre deux directions dans lesquelles l'humilité doit régir les relations. Premièrement, il dit que cette humilité doit se manifester dans les relations par une soumission à l'autorité des anciens. Verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose qu'il souligne aussi, c'est que cette soumission, cette humilité, pardon, doit se manifester par l'esprit qui prévaut dans les relations que l'on a les uns avec les autres. D'abord, la soumission, et puis l'attitude d'humilité vraiment dans les relations que l'on a les uns avec les autres. Il dit donc, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Alors, il y a beaucoup de discussions sur cela. Qui sont les jeunes ici? Qui sont les anciens ici? Est-ce que c'est les jeunes en âge et puis les anciens en âge? Est-ce que Pierre fait une différence entre ces deux-là? Il y en a même qui pensent qu'il parlait peut-être des jeunes anciens, puis par rapport aux anciens anciens, hein, aux vieux anciens, donc des anciens juniors, des anciens seniors. Et puis, il y en a qui pensent qu'il parle simplement d'une manière générale de l'Église, hein, ici. Je crois qu'il parle aux jeunes dans leur relation avec les anciens, c'est-à-dire les anciens dont il est question au verset 1, c'est-à-dire ceux qui perpètrent le troupeau, donc ceux qui exercent la fonction d'anciens, qui peuvent être des personnes âgées, mais des personnes moins âgées aussi. D'accord ? Donc c'est plus la fonction. Et il parle du rapport, de la relation que doivent entretenir les jeunes gens avec les anciens, les responsables dans l'Église. Alors, pourquoi est-ce qu'il cible les jeunes ? Simplement parce qu'en ciblant les jeunes, il cible tout le monde aussi. Hein. Une manière de parler aux jeunes, ça ne veut pas dire qu'on parle qu'aux jeunes. Ça concerne tout le monde, mais peut-être probablement aussi parce que c'est dans la relation qu'entretiennent les jeunes avec l'autorité qu'il y a, qu'on voit de manière la plus claire cette résistance et cette insoumission. La Bible parle beaucoup, bien sûr, du fait que les jeunes en âge doivent avoir du respect pour ceux qui sont plus âgés. Je lis par exemple Lévitique 20, 32, où il dit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard, tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Commandement de l'Ancien Testament qui montre l'importance du respect quand on est jeune que l'on doit avoir pour les personnes âgées. Et ça, on peut regarder notre société et on peut s'apercevoir que ça disparaît de plus en plus, hein, et que ce commandement de Dieu là n'est pas respecté. Quand on, il n'y a pas très longtemps, on a vu dans des informations des jeunes qui ont attaqué une personne dans le dos de plus de 80 ans et qui ont fait tomber cette vieille personne pour lui prendre son sac. Là, on est loin de ce que la Bible dit. La Bible dit ici. Malheureusement, ça arrive aussi, hein, ça peut arriver aussi dans l'Église. Hein, que les jeunes ne respectent pas ceux qui sont simplement plus âgés. Bon, j'espère que non, mais ça peut arriver ici. Mais je crois que ce que Pierre souligne surtout ici, c'est dans l'Église, vis-à-vis de l'autorité qui est conférée aux anciens, eh bien, il dit que les jeunes doivent montrer de la soumission. Et de manière générale, l'Église doit montrer de la soumission. Parce que ce qui est dit aux jeunes, c'est aussi dit pour l'Église entière. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 et 2, il dit, l'apôtre Paul dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs et rebelles à leurs parents. » Alors, rebelles aux parents, les parents, en général, ils sont plus vieux que les enfants. C'est l'ordre des choses. Donc, quand il dit que les hommes seront rebelles à leurs parents, il parle d'une catégorie qui fait intervenir l'âge ici, hein, en disant que les jeunes seront rebelles aux autorités. Et quand on regarde dans notre société, on peut voir cette question d'insoumission à l'autorité de la part des plus jeunes. La jeunesse s'enorgueillit de sa force, hein, c'est vrai qu'elle est forte, de sa beauté, hein. J'ai entendu des gens dire « je suis beau », hein, les chrétiens qui disent « je suis beau », etc. Parce qu'on est jeune et on se trouve beau. Hein. Elle s'enorgueillit des promesses que lui font l'avenir, hein. Bien sûr, je l'ai dit, de sa force et de toutes ces choses. Elle peut avoir aussi ce sentiment que on ferait mieux que ceux qui sont avant nous ou que ceux qui sont en train de faire les choses. Dans les gouvernements, maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes. On chasse beaucoup ceux qui sont vieux, qui ont beaucoup d'expérience, parce qu'il y a un vent de jeunisme, hein, les gens appellent ça comme ça, un vent de jeunisme qui frappe, et il faut amener des jeunes, parce qu'on pense que simplement parce qu'on est jeune, on fera mieux. C'est une expression d'orgueil. On n'a plus d'égard pour l'expérience, on n'a plus d'égard pour la fonction. En Job, vous vous rappelez de ce quatrième homme, Élihu, qui avait attendu que les plus âgés parlent. Alors à la fin, la Bible dit qu'il s'emporte de colère parce que les plus âgés n'ont pas amené de solution. Mais néanmoins, il a eu cette attitude dans laquelle il ne s'est pas exprimé simplement à cause de l'âge et de l'expérience qui, normalement, fait partie du grand âge. Il dit ceci, « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. » Aujourd'hui, on fait valoir son sentiment, n'est-ce pas? Vous exercez un métier depuis 30 ans. Vous avez de l'expérience ou pas? Oui, vous avez de l'expérience. Vous dites à un jeune qui n'était même pas né quand vous avez commencé à exercer votre métier, « Jeune homme, ce n'est pas ainsi que l'on fait cela. » Il vous dit « Oui, ça marche. » Vous dites « Non, ça ne marchera pas. » Il vous dit « Oui. » D'accord. Pas de respect pour l'expérience des gens. Okay. Et malheureusement, ça gagne aussi dans les églises. Trouver des personnes, parfois des hommes qui sont responsables, où ça fait longtemps qu'ils marchent avec le Seigneur, longtemps. Pas que leur vie est parfaite, mais ça fait longtemps qu'ils ont une expérience avec le Seigneur. Ils ont déjà parfois lu la Bible plus que mon âge. Hein? Et on leur tient tête en disant non, c'est pas ainsi qu'on doit faire ça. Ça arrive parfois. J'ai entendu quelqu'un qui a dit il n'y a pas très longtemps, je ne vois pas pourquoi je devrais être soumis aux anciens. C'est des hommes. La Bible est claire ici. La Bible est claire ici. L'orgueil nous pousse à agir de cette manière-là. Quand on est jeune, mais quand on est moins jeune aussi, hein, parce que les moins jeunes peuvent avoir cette manière de faire. Alors, comment est-ce que cette soumission aux anciens doit se concrétiser? L'apôtre Pierre ne le dit pas ici. Il ne donne pas de détails, mais on peut trouver ailleurs dans la Bible quelques pistes pour notre réflexion. Si on lit 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 12 et 13. Regardez 1 Thessaloniciens 5, versets 12 et 13. 1 Thessaloniciens 5, versets 12 et 13. Il est dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, quoi qu'il dit, et qui vous exhortent, je n'ai pas mis tout le verset en entier, verset 13, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. La considération et beaucoup d'affection. Voilà comment la soumission peut s'exprimer. C'est un aspect. Et la considération ici suggère une connaissance. Le mot peut être utilisé, remplacé par le mot connaissance. Ou parfois reconnaissance. Alors je vous lis le même verset dans la version Darby. Il dit, or, nous vous prions, frères, connaître ceux qui travaillent parmi vous et qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur et qui vous avertissent. C'est comme ça que la traduction littérale donne ce verset. Donc c'est la responsabilité de l'Assemblée à chercher à connaître leur ancien. La responsabilité des jeunes à chercher à connaître leur ancien d'une manière plus profonde. Et beaucoup de difficultés surgissent à cause d'un manque de connaissances, d'un manque de relations profondes. Alors on peut demander au Seigneur, comment puis-je connaître davantage, hein, comment puis-je partager davantage, comment puis-je avoir plus de connaissances de ceux qui nous dirigent. Quand ils vous invitent, laissez-vous inviter. C'est une manière de faire connaissance, de connaître davantage. Vous pouvez aussi les inviter, c'est une manière de faire davantage connaissance. Un autre verset, le même verset, pardon, mais verset 13, il dit « Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre ». Donc la soumission, on pourrait dire ici, se traduit par le fait qu'on va aimer, qu'on va chercher à avoir de l'affection. Beaucoup d'affection, il dit. Et le mot « beaucoup » traduit « au-delà de toute mesure ». Il dit de les, Darby dit encore ici, j'aime bien parce que c'est très littéral, il dit « de les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre ». Estimez-les très haut en amour à cause de leur œuvre. Et nous sommes donc exhortés à témoigner d'une haute affection à nos anciens. Et la raison de cette haute affection, ça n'est pas leur beauté physique. Ça n'est pas la couleur de leur peau, ça n'est pas leur savoir, ça n'est pas leur facilité à parler ou non, mais la Bible dit ici que c'est à cause de leur œuvre. Vous avez vu ça ici, hein, regardez. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Et l'Évangile nous exhorte souvent à faire attention, à associer les gens les responsables de l'Église, avec leur œuvre, avec ce que Dieu leur a confié. Là, ici, l'apôtre Pierre dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Et il parle de l'œuvre qu'ils doivent faire, qu'ils doivent paître le troupeau, etc., etc. Et comment ils doivent le faire. Et ailleurs, dans l'Écriture, on trouve qu'il faut avoir une attitude qui est liée à l'œuvre. Dans 1 Corinthiens 16, 16, l'apôtre Paul parle de Stéphanas, il dit, ayez aussi de la déférence pour de tels hommes et pour ceux qui travaillent à la même œuvre. Encore une fois, on voit ici l'œuvre. Dans Philippiens chapitre 2, versets 28 et 30, vous vous rappelez de Épaphrodite, je crois, où l'apôtre Paul dit « Je l'ai donc envoyé avec autant plus d'empressement afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le, dit-il, dans le Seigneur, avec une joie entière. Et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ. » Vous voyez encore ici une fois, à cause de leur œuvre. Et dans Hébreux chapitre 13, verset 17, il est dit « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes. » La raison pour laquelle la soumission est exigée, c'est à cause de leur œuvre, parce qu'ils veillent sur vos âmes. C'est l'œuvre que Dieu leur a confiée. Et donc la soumission s'exprime par une connaissance, mais aussi par une haute estime à cause de l'œuvre qui est confiée. Et puis si je prends le verset d'Hébreux 13, regardez Hébreux 13, verset 17, on peut dire que la soumission s'exprime par le fait de se laisser convaincre et de se laisser conduire. Hébreux 13, 17 dit ceci, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. » Obéissance, et parfois peut-être dans votre Bible, il écrit « et soyez soumis hein. ». C'est pareil, moi j'ai « ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. » Alors l'obéissance ici, c'est le fait de se laisser persuader. Comme c'est le même mot qui est utilisé dans Philippiens 1:6 quand l'apôtre Paul dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. » Il est convaincu. Okay. Donc quand il dit « Obéissez à vos conducteurs », il dit « Soyez persuadés que c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi, qu'il a placé ces personnes comme cela. Laissez-vous convaincre par cette vérité. » Et puis, il ajoute aussi, « Ayez pour eux de la déférence. » Et ça veut dire ne pas résister. Avoir de la déférence, c'est lâcher prise quelque part, ne pas résister plus souvent. On est orgueilleux et qu'est-ce qu'on fait face à une directive, à une direction? On résiste à cause de notre orgueil. Il dit non, il dit « Ne résistez pas. » Bien sûr, s'il est question de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est non, évidemment. Évidemment. Mais en général, ce n'est pas ce qui arrive. Il dit, lorsque vous êtes dans une situation, vous avez un conseil d'ancien qui vous guide, qui vous donne une directive, qui vous donne une direction, soyez persuadés que cela vient de Dieu et laissez-vous mettre dans cette direction-là. Ne résistez pas plus longtemps. C'est ce qu'il est en train de dire. Il ne dit pas, laissez-vous persuader si vous êtes d'accord avec. Il dit, laissez-vous changer de direction et placez-vous, suivez le conseil qui vous est donné. Vous dites, oui, mais ils peuvent donner des mauvais conseils. Mais si c'est un conseil qui est contre la parole de Dieu, évidemment, il ne faut pas le suivre. Mais même si c'est un conseil qui peut-être aurait pu être différemment, vous avez plusieurs personnes qui vous disent quelque chose, vous avez confiance que Dieu les a placés là, vous écoutez. Parce que ce n'est pas en fait à eux que vous faites profondément confiance, c'est à qui vous faites confiance? À Dieu qui les a placés. Si vous croyez que c'est Dieu qui a placé et vraiment que c'est Dieu qui commande de faire ainsi, mais vous faites confiance à Dieu lorsque vous faites confiance aux hommes qu'il a placés. Voyez, c'est ça que Dieu veut de nous. En Actes chapitre 16, verset 4, Il y dit, en passant dans les villes, je crois que c'était Paul et d'autres collaborateurs, il dit, en passant dans les villes, ils recommandèrent aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Ils recommandent l'observation des décisions. Le problème que l'on a souvent, c'est qu'on n'observe pas les décisions. On a chacun son idée. Parce qu'on est orgueilleux. On est profondément orgueilleux. Et ma parole, mon sentiment, mon opinion est autant valable que le conseil de ces hommes. Peut-être. Mais ce que Dieu me commande, à moi, c'est d'avoir de la différence, de me laisser guider et de me laisser conduire. D'accord ? Bien sûr, pas dans le mauvais chemin. Et ça, c'est des cas minimes, dans la grande majorité des cas. La grande majorité des cas. D'accord ? Vous n'êtes pas conduits, nous ne sommes pas conduits dans de mauvais chemins. Donc, l'humilité dans les relations se montre par la soumission à l'autorité des anciens, de la part des jeunes, mais de la part de l'Église entière, mais aussi par l'esprit qui doit prévaloir dans toutes les relations. Regardez encore le verset 5, l'apôtre Pierre dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Et le terme traduit par « humilité » ici, c'est être animé d'un esprit humble, avoir un sens profond de sa petitesse. Il dit « revêtez-vous », c'est un terme qui renvoie à, il semble à une pièce de, la pièce de tissu blanc que portaient les esclaves avec lesquels ils se signaient pour signifier qu'ils sont des esclaves. Et parfois ça pourrait être un tablier pour ne pas se salir, mais en tout cas, il semble que c'était une pièce qui pouvait les distinguer de l'homme libre. Ils sont au service d'un maître. C'est un petit peu, et on peut penser que c'est... que Pierre avait ici l'image de Jésus, vous vous rappelez, peu de temps avant sa crucifixion. Je vous lis dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 3, il est dit « Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa l'eau dans un bassin. Et il se mit à laver les pieds des disciples et essuya avec le linge dont il était saint. » Ce tissu d'humilité, on pourrait dire, par lequel Jésus s'est saint pour se mettre, s'humilier, se mettre au service de ses disciples. Lui qui est le maître. Et cette exhortation dit que les chrétiens doivent se ceindre du tissu de l'humilité. Et le mettre, pas simplement sur leur corps, mais sur leur cœur vraiment, afin que cette humilité puisse présider à toutes les relations, tous les entretiens, tous les rapports que nous avons les uns avec les autres. Il s'agit d'être revêtu d'une disposition d'esprit qui considère l'autre comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et c'est parce que nous avons des rapports mutuels les uns avec les autres que les choses sont souvent difficiles. Mon idée rencontre l'idée de ce frère et de cette sœur. Et chacun pense que son idée est la meilleure. Que ce soit pour la couleur à donner au mur. Si on demandait quelle couleur on devait peindre la salle, si on est 70, on aurait peut-être 80 choix possibles, n'est-ce pas ? Quelqu'un en aurait deux, quelqu'un en aurait trois, etc. Et puis, tout le monde penserait que sa couleur, c'est la meilleure. Ou sa manière d'agencer les fleurs. Je pense qu'on peut passer dans tous les ministères. On peut demander aux gens, est-ce que vous avez déjà eu des difficultés pour vous mettre d'accord sur ça ? Oui, moi, je pense qu'on aurait pu arranger les fleurs comme ça. Elle pense qu'on aurait pu peut-être plus faire comme ça. Bon, parfois, on sait un peu... Et à la maison, c'est pareil, n'est-ce pas, dans beaucoup de choses. Pourquoi ? À cause de notre orgueil. On a toujours raison. Nous avons toujours raison. Et on est frustré quand les choses ne se passent pas comme on le voudrait. On a une très haute opinion de soi et on a une très haute opinion de son opinion. Hein? Souvent, ma vision des choses est bien au-dessus de celle des autres. Et vous savez, il y a des personnes qui se fâchent vraiment si leur opinion n'est pas mise en application. Romains 12, 3 dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. » On est dans la même image ici, de revêtir l'humilité, de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et dans Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4, je vous lis ceci. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » L'ambition, égoïsme, opinion exagérée de soi, c'est ce qui est mis en opposition ici dans ce verset avec l'humilité. Et notez comment l'humilité influe la perception des choses. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'orgueil, l'égoïsme, l'ambition, l'amour propre, ça nous fait mépriser les autres. Mais l'humilité nous fait regarder les autres différemment, comme étant au-dessus de nous-mêmes. Il ne s'agit bien sûr ici pas d'être dans le déni de réalité, hein. Ça sert à rien. Hein? C'est pas venir en face des gens puis dire « Ah, tu sais, tu es meilleur que moi. Oui, tu es meilleur que moi. Hein? » etc. Et puis dans le cœur, on pense autrement. Hein? Ça peut arriver. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Hein? Si je vais voir Jérémie et puis je dis à Jérémie, oh, tu sais, tu es meilleur que moi, je sais pas dans quoi, hein? Dans quelque chose que je fais. Voilà, il a jamais fait cette chose. Hein? C'est du mensonge. Si lui, il me dit, mais Albert, tu es meilleur que moi au piano, hein, je saurai tout de suite qu'il ment. D'accord? C'est pas ça qu'on appelle être humble. C'est pas simplement dire aux gens qu'ils sont meilleurs partout. Non, il faut être réaliste. Hein, il est 1000 fois meilleur que moi au piano. Je suis carrément nul. Donc, de toute façon, c'est pas difficile. Hein? Mais c'est l'idée ici, c'est que l'humilité n'a pas à faire avec ce que les gens sont vraiment, mais comment je les considère. C'est ça l'idée ici. L'humilité consiste à estimer digne tout ce chez l'autre, tout ce que j'estime digne chez moi. Ils sont dignes de mon temps, ils sont dignes de mes visites, ils sont dignes de mon argent, ils sont dignes de mes prières, ils sont dignes de mon hospitalité. Ils sont dignes que je passe du temps avec eux. Ils sont dignes que je les appelle au téléphone, indépendamment de ce qu'ils sont en réalité. Vous voyez cela? Je les estime comme moi-même, et même au-dessus. Ce que je voudrais pour moi, je le veux aussi pour eux. J'aimerais qu'on passe du temps avec moi. Eh bien, je passe du temps aussi avec eux. Je cherche à passer du temps avec eux. Ils sont dignes que je prenne ce temps-là avec eux. C'est ce que l'apôtre Paul souligne ici. Et c'est ainsi que nous devons, agir si nous voulons avoir un esprit d'humilité dans toutes nos relations. Donc soumission aux anciens, mais aussi un esprit d'humilité qui régit toutes les relations que nous entretenons les uns avec les autres. Que le Seigneur nous aide vraiment dans cela. Et puis l'apôtre Pierre dit autre chose aussi. Il dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux siens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Donc il nous faut être certains que nous sommes motivés par l'humilité dans les relations que nous avons les uns avec les autres. Et il ajoute une raison, on pourrait dire, une motivation à cela. Et donc c'est mon deuxième point ici, la motivation à l'humilité. Il dit, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est une citation ici de Proverbes chapitre 3, verset 34, qui dit « Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Donc Pierre cite ici le Proverbe 3, verset 34. Et il décrit à travers ce proverbe l'attitude de Dieu face à l'orgueil et à l'humilité. Et c'est une double action qu'il utilise ici comme une motivation pour le croyant de se revêtir d'humilité. Il dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Le terme est très fort, hein. Ça veut dire que Dieu se range en bataille, comme s'il se range en bataille armée contre les orgueilleux. Et tu es orgueilleux, mais voilà. Dieu va se dresser en face de toi et il va te mener guerre. C'est un peu comme s'il disait ça. Oh, vous ne pouvez pas dire, bon, c'est pas grave. C'est Dieu. OK ? C'est pas Poutine. D'accord ? Il est tout puissant. Il peut dire un mot et... Et l'apôtre Paul avait dit ça une fois dans 1 Corinthiens chapitre 10. Il a dit, Dieu est un Dieu jaloux. Il dit, voulez-vous provoquer Dieu? Il dit, attends, mais pensez, êtes-vous plus fort que lui? Dernier verset d'un, je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 10, pas le dernier, mais 1 Corinthiens chapitre 10, il dit cela. Hein. Êtes-vous plus fort que lui? C'est-à-dire, il faut réfléchir. La Bible dit ici que Dieu résiste, il s'oppose à l'orgueil. Et regardez dans Deutéronome chapitre 17, Deutéronome chapitre 17, Deutéronome chapitre 17, ici, verset 8, il dit « Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation, porte dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras, ils te feront connaître la sentence. » Écoutez bien, verset 10. « Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel. Tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. » Voilà. Tu te laisses persuader et tu te laisses conduire. Ce qu'on avait dit tout à l'heure pour la soumission. C'est la même chose qu'il dit ici. Verset 11, « Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront, à la sentence qu'ils t'auront prononcée, et tu ne t'en détourneras ni à droite ni à gauche de ce qu'ils te diront. » Verset 12, « L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. » Pourquoi ? Parce que Dieu s'oppose aux orgueilleux. « Afin que tout le peuple entende, verset 13, et craigne, et qu'il ne se livre plus à quoi ? À l'orgueil. Qu'il ne se livre plus à l'orgueil. » Dieu dit, il va frapper celui qui, par orgueil, n'écoute pas ses responsables. Pour que les autres ne se laissent pas emporter par l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Et en même temps, l'apôtre Pierre dit qu'il fait grâce aux humbles. 2 Chroniques, chapitre 7, 4, dit ceci. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. » Je lui pardonnerai son péché et je le guérirai son pays. S'il s'humilie, je le guérirai. Alors je vous propose de regarder quelques exemples très rapidement sur des hommes qui se sont humiliés et pour lesquels Dieu a manifesté sa grâce. Regardez dans 2 Chroniques chapitre 12. 2 Chroniques chapitre 12. 2 Chroniques chapitre 12 et au verset 5, c'est tout petit passage à chaque fois, 2 Chroniques chapitre 12 et au verset 5, on est avec le roi Roboam, fils de Salomon. Hein. Il dit Roboam, chapitre 12, verset 5.
Alors Shemaïa, le prophète, se rendit auprès de Roboam et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak, et il leur dit : Ainsi parle l'Éternel, vous m'avez abandonné, et moi je vous abandonne aussi, et je vous livre entre les mains de Shishak. Pourquoi ? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Verset 6. Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent : L'Éternel est juste. Et quand l'Éternel vit qu'ils s'humiliaient, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaïa : Ils se sont humiliés. Je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir. Et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak. Pourquoi ? Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Voyez ça ici ? Il y a plein d'autres exemples comme cela dans la Bible. On n'a pas le temps de tous les lire, mais souvenez-vous du roi Akab. Akab, la Bible dit que c'était le plus méchant roi. Il a fait le mal comme aucun autre roi a fait du mal sur la terre. Et Dieu, il a fait tuer Naboth pour pouvoir voler la vigne de cet homme, lui qui était un roi. Et Dieu lui dit, bien, là où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront ton propre sang. Et la Bible dit que Akab, le méchant roi Akab, il s'humilie devant Dieu, déchire ses vêtements, puis il s'humilie. Et Dieu appelle le prophète Élie et lui dit : As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi ? Mais parce qu'il s'est humilié, je ne ferai pas venir tout de suite le désastre sur lui. Ah, bien sûr, il va mourir comme Dieu a dit, mais Dieu a retardé son jugement. Et Dieu dit : Parce qu'il s'est humilié devant moi. Vous pouvez vous souvenir d'Ézéchias, qui était un bon roi, lui, par contre, dont le cœur s'est élevé à un moment donné de sa vie, juste une petite fraction de sa vie. Et Dieu a prononcé un jugement, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et lui aussi, il s'humilie, se repent devant Dieu. Et la Bible dit que Dieu lui dit, il ne fera pas venir le malheur pendant sa vie. Mais je voulais lire encore juste un exemple, c'est celui de Manassé, 2 Chroniques 33. Donc 2 Chroniques 32 si vous voulez lire Ézéchias, 1 Roi 21 si vous voulez lire l'histoire du roi Akab. Je saute, mais en 2 Chroniques 33, vous regardez ici et vous avez au verset 10 l'histoire de Manassé qui était le fils d'Ézéchias, du roi Ézéchias. Verset 10 de Chroniques 33, il est dit : L'Éternel parla à Manassé, à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux le chef de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Voyez ici, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors Pierre est en train de dire quoi ici ? Il est en train de dire, attention, il dit, dans l'Église aussi, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. L'orgueilleux, c'est celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Quand Dieu dit, soumettez-vous ici, il trouve une raison pour ne pas le faire. Eh bien, ils expriment leur orgueil. Et la Bible dit que Dieu résiste à cela. Il se range en bataille contre celui qui a une telle attitude. Et il a différentes armes à son arc, flèche à son arc. Mais il dit en même temps que ceux qui s'humilient eh bien, il trouve une grâce particulière. Il n'a pas dit qu'il faut être d'accord avec tout ce qui se passe, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Il a dit qu'il faut s'humilier en respectant l'ordre établi par Dieu, en se soumettant aux anciens, comme on l'a vu ici, et en étant motivé par l'humilité dans toutes nos relations, ici, en cherchant vraiment l'humilité dans toutes nos relations. Est-ce que nous sommes fâchés lorsque on ne fait pas ce que nous avons dit? Comment est-ce que nous parlons de l'Église? Il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de moyens de voir si nous sommes des personnes humbles ou si nous sommes empreints plutôt d'orgueil. Comment nous recevons les conseils qui nous sont donnés? Comment nous les mettons en pratique? Quelles pensées nous avons des uns et des autres? Le Seigneur nous demande de nous questionner sur toutes ces choses. Est-ce que je peux dire que dans mes rapports les uns avec les autres, je suis revêtu d'humilité? Je considère les autres comme étant au-dessus de moi-même. Ou est-ce que dans mon cœur, voilà, je veux ce que je veux. Et mon opinion est tout aussi valable que celle de l'autre. Que le Seigneur nous aide dans cela. L'orgueil est un obstacle au salut. L'orgueil est un obstacle au salut. Jésus dit, si vous ne devenez comme un petit enfant, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire avec cette humilité, cette attitude qui reçoit ce qu'on lui dit. À moins d'être ainsi, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul disait que Dieu a choisi la folie de la prédication pour sauver les hommes. Les hommes veulent des miracles, ils veulent de grandes choses, des choses qui flattent leur ego. Eh bien, Dieu a dit non, il dit voilà, la folie de la prédication, c'est ainsi qu'il a choisi de sauver. Il faut s'humilier pour recevoir l'évangile. Et donc, l'orgueil est un obstacle à la pénétration du salut. Mais l'orgueil est aussi un obstacle à la bénédiction de Dieu sur ses enfants. On le voit ici puisque la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Donc si nous voulons anticiper la grâce de Dieu dans notre vie en tant qu'enfants de Dieu, il nous faut revêtir véritablement l'humilité. Il faut être honnête et reconnaître que nous sommes orgueilleux. Nous le sommes. Et que même à travers nos meilleurs actes, l'orgueil peut être niché. Parfois, il y a des gens qui demandent, est-ce que tu vois que tu as mal agi ici? Ils disent non. Je ne vois pas en quoi j'ai mal fait. Même si vous leur expliquez, vous leur montrez bibliquement, ils disent non. Des chrétiens, je ne sais pas. C'est terrible. Quand l'orgueil nous saisit, demandons à Dieu de nous en délivrer. Et par sa grâce, par son esprit, eh bien, comme l'apôtre Paul dit, revêtons les sentiments d'amour, d'humilité, de compassion, de paix, de douceur. Et que la paix de Christ à laquelle nous avons été appelés règne vraiment dans nos cœurs. Prions. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole et nous voulons accepter ce qu'elle dit de nous. Nous sommes naturellement égoïstes et orgueilleux. Dès notre plus jeune âge et notre naissance même. Et même en devenant des chrétiens, nous demeurons orgueilleux dans ce que nous faisons. Et nous avons besoin de ta délivrance complète. Nous avons besoin que tu nous ouvres les yeux. Nous avons besoin de nous revêtir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Afin de vivre d'une manière qui te plaise. Nous avons besoin d'apprendre à nous soumettre à ceux qui nous dirigent, à avoir pour eux de la déférence, à les tenir en estime. Nous avons besoin d'apprendre à les connaître. Et nous avons aussi besoin d'apprendre à laisser l'humilité envahir nos cœurs dans toutes les relations, dans tous les échanges que nous avons les uns avec les autres. Montre-nous pratiquement comment nous pouvons le faire, comment nous devons le faire. Et dirige-nous par ton esprit. Amen.